Voici la section de Bourges et Duchère de la Ligue des droits de l'homme.
Bonjour Michel Picard.
Bonjour.
Quel est le menu du jour ?
Ben, le menu du jour est peut-être de faire un rapide point sur la situation sanitaire, ou plus exactement la gestion de la crise sanitaire, avec l'espoir qu'on en sorte le plus vite possible. Ensuite, peut-être poser la question des Afghans, notamment ceux qui ont aidé les armées françaises et qui ont besoin d'asile. Voilà. Et puis peut-être un troisième élément traitant des perspectives, dans la perspective de l'année présidentielle qui s'ouvrira dans quelques mois. Comment aller vers une démocratie vivante ?
Ah, ouais. Alors il y a la démocratie morte. Il faudra qu'on
une l'exploite. Démocratie malade.
Bon, alors donc, la situation sanitaire. Donc, nous sommes vivants, nous aussi. Et il y a beaucoup de réticences. Il y a des manifestations régulières, pas forcément pléthoriques, mais quand même, disons, relativement obstinées, pour protester un peu contre l'obligation vaccinale et beaucoup contre l'usage et l'obligation du pass sanitaire. C'est ça la question.
Oui, dans ces manifestations, on trouve, pour faire vite, on trouve de tout l'éventail des opinions possibles.
Mais
on
ça, trouve des ça gens... se décante un peu, je trouve.
Pardon ?
Ça se décante. Il reste beaucoup ces problèmes-là.
Mais on trouve des gens vaccinés, des gens non vaccinés. L'essentiel des remarques qui sont formulées par les manifestants, c'est l'opposition au pass sanitaire. Mais je crois que la manifestation est un droit constitutionnel. Oui. Donc les manifestations qui se sont déroulées, qui sont sans doute en train de s'amenuiser aujourd'hui, ont été généralement menées dans le calme.
Et ce que j'ai remarqué, enfin en tout cas à Bourges, c'est qu'elle n'était pas autorisée, enfin elle n'était pas déclarée en préfecture, et tout se passait bien.
Tout se passait bien. Effectivement, tout s'est bien passé. Et globalement, dans l'ensemble du pays, on peut faire le même constat.
Oui.
Mais ce que nous pouvons dire, du moins c'est la position exprimée par la Ligue des droits de l'homme, la vaccination... doit être ouverte à tous ceux qui le souhaitent. Et je crois que ça se déroule aujourd'hui d'une façon qu'il est difficile de critiquer. La vaccination de masse et la vaccination de masse la plus rapide possible, ouverte à tous, ça permet de faire reculer, sinon d'éteindre la pandémie. On ne rentrera pas ici dans une analyse, d'ailleurs on n'a pas les compétences sur le plan scientifique ou sur le plan médical, mais les questions que pose la Ligue des droits de l'homme, c'est des questions économiques à l'échelle internationale et c'est des questions sur la gestion qui a été conduite de la crise. Ensuite, je dirais deux mots sur la position qui a été prise relativement au pass sanitaire. Je disais, la vaccination est une chance d'aller vers sans doute une extinction de la pandémie. Mais le problème, c'est que si ça pourrait être le cas si la vaccination était ouverte à la planète entière. Alors si on a 90% de la population dans les pays riches qui est vaccinée ou s'achemine vers la vaccination, c'est 3% en Afrique. Par conséquent, si les vaccins n'atteignent pas une grande masse de population sur la planète, on a des variants de plus en plus dangereux qui risquent de circuler et on est sans doute très loin de l'extinction de la pandémie, sans vouloir faire peur. Et pourquoi ça ? parce que les besoins de santé publique de la population mondiale ne sont globalement pas traités, on ne se rapproche pas. Et c'est le problème de la propriété privée des brevets et des vaccins. En fait, c'est le monopole de production et de commercialisation de ces produits par quelques grands groupes pharmaceutiques qui exercent un véritable chantage sur les États et les organismes internationaux.
C'est aussi une forme d'égoïsme des pays riches, quand même.
Oui, mais c'est un égoïsme du profit, en fait.
Oui, mais enfin, les États pourraient offrir, ils le font, mais alors à dose homéopathique, si j'ose dire, ils pourraient offrir des vaccins, quel que soit leur mode de fabrication, aux pays qui en ont besoin. Ils ne le font pas.
C'est le problème de la propriété publique ou de la propriété privée. Et ici, c'est la propriété publique qui serait nécessaire. D'ailleurs, au sein du Parlement européen, Madame van der Leyen, la présidente de la Commission européenne, a été interpellée par une députée qui lui posait la question « Qui décide, madame, vous ou l'industrie pharmaceutique ?» Parce que ça, c'est une bonne question. Elle met le doigt, en fait, sur la duplicité de différents gouvernements européens, dont le gouvernement français d'Emmanuel Macron, qui prétend vouloir protéger la population, mais qui, dans les réunions de l'Organisation mondiale du commerce, vote contre la levée des brevets, ce qui signifie, au fond, prolonger la pandémie.
Le virus, c'est comme de l'agriculture, presque. C'est nous qui le cultivons. Comme nous avons beaucoup d'imagination, on en crée toujours des petits nouveaux. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils soient pires que les autres, d'ailleurs. On ne sait pas trop. Le fameux variant Delta, il est beaucoup plus contagieux, mais pas forcément. Il n'a pas forcément un taux de morbidité plus important. Mais le problème, c'est qu'il en viendra d'autres, forcément.
Oui. Alors, je ne compte pas rentrer dans une analyse scientifique de ces produits, mais la deuxième chose que la Ligue pose comme problème, c'est celui, au fond, de la démocratie sanitaire. Il y a très longtemps qu'on a des protocoles pour traiter des situations d'épidémie et de pandémie. Pourquoi avoir créé le 10 mars 2020, ce fameux conseil scientifique qui, finalement, a conduit à une hyper-centralisation des décisions en se coupant, au fond, de beaucoup d'organisations en lien avec le terrain. Et ce qui a conduit souvent à une perte de capacité de mise en œuvre. En réalité, on a abouti à une hyper-personnalisation de la décision, mettant à l'écart des personnes qui, dans les hôpitaux, des soignants, des médecins, des infirmières, etc., etc., qui, dans les hôpitaux, avaient des avis qui auraient été utiles, et ils n'étaient pas consultés. Et en fait, c'est l'État et ses services, notamment préfectoraux, qui se sont arrogés le monopole de gestion de la crise. Et il y a eu, dans cette gestion de la crise, un véritable déficit démocratique. Et c'est ça que la LDH critique. Et elle l'a critiqué dans un communiqué, alors je ne sais plus, communiqué national, je ne sais plus s'il est du... Je crois qu'il est du 26 juillet 2021, qui était titré « Passe sanitaire, deux points, un mauvais coup ». Et quelles étaient les idées de cette prise de position qui a été publiée il y a une vingtaine de lignes? Toutes les personnes qui souhaitent se faire vacciner doivent le pouvoir. À l'époque, était rajoutée l'idée, encore faudrait-il qu'il y ait des vaccins pour tout le monde. Et le tout le monde étendu à la planète entière, d'où la demande de lever des brevets. C'était aussi ce gouvernement prend des mesures autoritaires et le pass sanitaire en est la démonstration. Quand il n'y avait pas suffisamment de masques, on nous expliquait que le masque était inutile. Quand On était dans une situation où on avait la perspective de faire évoluer la vaccination. On a choisi le chemin de la contrainte. Et le pass sanitaire, c'était au fond, c'est quelque chose qui fait pression sur la population en vue de la forcer à aller se vacciner. Attention, j'ai dit tout à l'heure, les vaccins sont une bonne chose. Et il faut aller vers la vaccination. Seulement, c'est contraire aux recommandations de l'Organisation mondiale de la santé qui dit convaincre sans contraindre. On peut comprendre, dans ces conditions, les personnes qu'il y en a dans les manifestations qui le disaient. Oui, mais il faut quand même pas oublier que les vaccins, ils sont encore en phase expérimentale et qu'ils sont en autorisation de mise sur le marché conditionnelle jusqu'en 2023. Bon, c'est une chose. Par ailleurs, ce pass sanitaire est aussi, si c'est un outil de pression, si c'est un outil de contrainte, c'est aussi quelque chose qui a été institué et risque de poser à terme, ça viendra peut-être plus tard, un certain nombre de problèmes juridiques. En quoi imposer l'obligation à un restaurateur ou un directeur de salle de cinéma de contrôler. Des contrôles, dans certains cas, avec contrôle d'identité, évidemment, puisque certains se disent « Ah oui, mais il me présente le pass sanitaire, mais moi, je suis pas sûr que c'est bien lui, ça peut être quelqu'un qui lui a passé, etc. » Donc, ça crée un système que beaucoup de personnes critiquent, tout le monde, qui contrôle qui, bon, etc.
Oui.
Et donc, voilà, cette pression. Et par derrière tout ça, est venu, se pose la question de l'obligation vaccinale. Alors bon, il y a effectivement des vaccins qui sont obligatoires. La question de l'obligation est une question légitime, sauf que il y a le petit côté chantage à l'emploi. Aujourd'hui, et oui. On le voit dans le problème que ça pose dans les hôpitaux, avec, au fond, risque de baisse de personnel.
Et aussi, dans l'emploi privé.
Hein. Dans l'emploi privé. Et donc, cette question-là, c'est bien la démonstration que ce gouvernement s'est trompé de chemin. Il n'a pas pris le chemin de la gestion démocratique, il a pris le chemin de la gestion autoritaire. Mmh. Et pour en finir là-dessus, Quand on regarde ce chantage à l'emploi, ces suspensions de contrats avec suspension de salaire, etc. C'est un vrai problème juridique, puisque un licenciement pour cause de non-vaccination revient à être un licenciement pour cause d'opinion. Alors ça, c'est illégal.
Ah, oui, ça
possible. Ça, c'est illégal.
Oui. Et alors, d'ailleurs, le gouvernement a évité soigneusement le terme de licenciement. Hein.
Il a évité le terme de licenciement.
Suspension.
Madame Borne, ministre du Travail, l'avait employé au tout début, le mot licenciement.
Oui,
Puis très vite, ils ont essayé de le gommer.
Alors puis, en fait, oui. Qu'il y ait des populations qui sont au contact des malades, des gens fragiles, qui aient une obligation vaccinale, c'est déjà le cas. Quand j'ai voulu être professeur, il a fallu que je sois à jour de mes vaccinations, sinon ça marchait pas. Hein. Et que le personnel soignant ait une obligation de vaccination, moi ça me paraît pas choquant. Ce qui me paraît étonnant, c'est d'une part que c'est dans le personnel soignant qu'il y a des critiques, je dirais scientifiques, contre les vaccins ARN, en fait. C'est un petit peu ça, le problème. Et puis, une autre question que je me pose, c'est que, est-ce qu'il y a une vérité scientifique démocratique? Ça, c'est un cas intéressant.
Mais c'est lié aussi à la question de l'éducation populaire.
Oui.
Quand la loi dit que les personnes doivent... c'est le consentement libre et éclairé,
oui,
par rapport aux soins. L'éclairage, si on peut dire, de la population n'est peut-être pas correctement fait ou insuffisamment étendu.
Oui, il est difficile. Moi, j'avais remarqué aux États-Unis qu'il y avait une partie des Américains qui, en votant pour Trump, avaient voté contre le changement climatique.
Oui.
C'est... Voilà, et bon, évidemment, on peut en rigoler, mais il y a ce problème-là que la certitude scientifique, si tant est, elle existe, et la démocratie, c'est un couple potentiellement conflictuel, évidemment.
On peut penser qu'il n'y a jamais de vérité scientifique absolument établie. Les choses évoluent, il faut... Bon, mais... Pour revenir au vaccin, avoir la possibilité de se déterminer et de consentir librement de façon éclairée, ça suppose effectivement une extension élargie de l'information scientifique, de la formation aussi. C'est tout le problème de l'éducation. Si nous avons aux États-Unis des gens qui votent Trump parce que Trump est un climato-sceptique et que, bon, voilà, adepte du complot pour manipuler les foules, c'est le déficit éducatif. Et c'est bien, bon, la solution, c'est quand même éduquer, instruire. Bon, voilà. Et malheureusement, l'éducation nationale en France est bien malade.
Oui, et puis en plus, elle ne fonctionne pas pendant l'été. Et puis, l'éducation populaire est largement laissée aux grands médias d'information, ouais, qui sont presque tous aux prises avec le privé, qui est la propriété d'intérêts privés, et on retrouve pour l'information ce qu'on avait déjà dit pour les brevets pharmaceutiques.
Absolument. Ouais. Et ce que, alors, pour peut-être clore cette question,
ce sujet,
crise sanitaire, ouais, gestion de la crise sanitaire, vaccin, contestation, passe sanitaire, les personnes qui critiquent l'obligation vaccinale ne sont pas des personnes, la majorité ne sont pas des personnes qui s'opposent à la vaccination, mais qui disent, moi, je veux avoir, j'ai la maîtrise de mon corps, et je veux avoir la certitude qu'il n'y aura pas d'effet négatif de cette vaccination sur le très long terme. Et moi, si aujourd'hui je refuse de me faire vacciner, disent-ils, c'est parce que l'autorisation de mise sur le marché est seulement conditionnelle et qu'il y a encore des études qui sont en cours et je voudrais savoir exactement ce qu'il en est.
Oui, sur le long
terme.
C'est
ça, en fait.
Et le problème, c'est qu'on sait ce que fait la maladie sur le court terme.
Voilà. Et c'est pas... Alors, sur le court terme, c'est vrai qu'il y a quelques effets indésirables. Mais ouais, ils sont minoritaires. Ils sont vraiment très minoritaires. Ouais. C'est epsilon. Et par conséquent, bon, la vaccination, elle ne protège pas de... Ce qu'on appelle la vaccination ne protège pas de l'infection. Elle ne protège pas de la transmission. Mais elle protège, pour l'essentiel, de la gravité,
oui,
hein, de la maladie.
Et il faut, sans vouloir s'éterniser sur le sujet et sur l'aspect scientifique de la chose, il faut dire que les vaccins ARN, c'est pas que des vaccins, hein, ça fait partie de la médecine génétique, en fait, hein, et les vaccins ARN pourraient un jour servir à beaucoup d'autres choses, comme soigner des maladies auto-immunes, soigner même les cancers, des choses comme ça. C'est le début d'une technologie, et c'est presque un aspect marginal d'une technologie qui est encore, ouais, à venir.
Hein. Alors, bon, effectivement, les vaccins ARN, cette technologie, elle date les premières... L'apparition, c'est aux alentours des années 60, je crois, 1961.
C'est ça, oui. Et c'est en France,
monsieur. Oui. Et ce que l'on entend, j'espère ne pas me tromper, je reste prudent, je crois que les critiques que l'on entend dans le monde médical par rapport à l'ARN, c'est, certains disent, le danger, c'est que c'est une thérapie génique.
Oui, c'est ça, c'est
Mais
exactement
la
ça.
La grande erreur peut-être, c'est qu'une thérapie génique, c'est une intervention qui va toucher jusqu'au noyau des cellules.
Ah oui.
Le vaccin ARN ne touche pas le noyau des cellules.
En fait, il donne à l'ADN le plan pour fabriquer une protéine qui empêche l'agression virale. Et ça modifie le génome d'une certaine façon, de toute façon un petit peu. Hein. Nous sommes devenus des transgènes. Voilà, bon.
C'est la critique qui est formulée.
Oui, j'ai compris
mais
ça.
Mais la réponse de ceux qui s'opposent à ces critiques sur l'ARN dit « ça ne touche pas le noyau des cellules ».
Le problème de droit, c'est que les gens doivent conserver leur libre arbitre vis-à-vis de ça.
Oui, et puis le fond, c'est bon, la gestion de la crise a été faite, le choix a été le choix de la voie autoritaire, et pas de la voie du débat, de l'information approfondie.
C'était contenu, au fond, dans la première intervention du président de la République, nous sommes en guerre.
Oui.
Eh bien, en fait, oui, c'est ça.
Un conseil de défense qui n'a pas permis que sur le terrain, toutes les organisations existantes puissent participer au choix.
La guerre n'est pas favorable à la démocratie.
À la démocratie.
Eh bien, nous allons aller dans un endroit où on est aussi en guerre, où on le fut en tout cas récemment, c'est l'Afghanistan. Alors, qu'est-ce qui se passe en Afghanistan? Eh bien, bon, les talibans ont pris le pouvoir. Peut-être peut-on rappeler ce que ça veut dire, talibans? C'est les étudiants. C'est des étudiants de Dieu.
Les talibans, c'est un groupe d'islamistes...
Fondamentalistes.
...politiques, fondamentalistes, qui ont une vision rigoriste de leur religion. C'est un islam autoritaire, c'est un islam politique, c'est ce que l'on avait vu il y a 20 ans en arrière avec l'exécution des femmes, lapidation, femmes sous la burqa, pas d'école pour les femmes n'ont pas besoin de faire de sport. C'est ce qu'ils viennent d'ailleurs de redire, qu'ils avaient changé, ils n'ont en fait pas changé. Quelle situation et quel avenir pour les personnes, hommes et femmes, qui en Afghanistan ont travaillé pour les armées de l'OTAN, qui, depuis l'intervention dans le pays,
il y a 20 ans,
et notamment ceux qui ont travaillé pour l'armée française, bien ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que beaucoup ont d'énormes difficultés pour obtenir leur visa, un visa, et qu'il y a énormément de rejets de demandes d'asile. La Ligue des droits de l'homme, qui est affiliée à la Fédération internationale des droits de l'homme, la FIDH, a eu l'occasion de constater que, en France, alors je ne sais pas ailleurs, on peut penser qu'on a des situations qui sont comparables, l'obtention des visas est très difficile et le rejet des demandes d'asile est très fréquent, et qu'on voit même des administrations qui sont un peu poussées à modifier un certain nombre de données sur les dossiers pour éviter d'accueillir.
Alors, pour être précis, nous ne parlons pas là du refus des talibans de laisser sortir les gens. Nous parlons du refus des autres pays de les accueillir.
Il y a les deux choses. Il y a le refus des talibans, il y a la NAS qu'ils organisent pour réprimer finalement la population et sans doute considérer comme des traîtres. Enfin, c'est une situation qui est semblable à celle que les Harkis ont connue au moment de la fin de la guerre d'Algérie.
Ouais.
Et donc voilà. Et qu'est-ce qui fait la démonstration qu'on est bien dans cette démarche où le moins possible de visa, le moins possible de réponses positives aux demandes d'asile, quitte à modifier des dossiers pour pas accueillir. Mais c'est le discours d'Emmanuel Macron, discours en clin d'œil à la droite dure, Attention, si on reçoit trop de réfugiés et de migrants, il y a des risques d'accueillir. Au fond, c'était ça. Il y a des risques d'accueillir des gens qui soient des terroristes déguisés. Et en fait, c'est un discours qui montre que l'objectif n'est pas tant la protection des gens en danger, qui demande asile, et ce qui est un droit inscrit, un droit international inscrit dans la déclaration de 1948, malheureusement, et c'est triste pour nous, ce discours-là, il rentre dans le calendrier d'Emmanuel Macron, qui n'est pas un calendrier de protection des droits, mais qui est un calendrier dans sa perspective de réélection présidentielle. Oui. Ça, c'est grave.
Ça, oui, malheureusement. Et puis ça arrive de plus en plus souvent, ça, tous les 5 ans.
Et alors, on a une très grande rareté, en fait, des collectivités territoriales qui se sont portées volontaires pour l'accueil. C'est vrai, c'est des maires qui se considèrent comme ayant l'étiquette de gauche. Il y a aussi le cas du maire de droite de Saint-Étienne.
Oui, c'est ça, c'est à lui que je pensais.
Et j'ai Gabriel Perdriau. Lequel dit, et la Ligue est d'accord avec lui, qu'il parle de la situation qu'on vient d'évoquer, limitation des visas, limitation de l'accueil, c'est une situation honteuse, dit-il. Et c'est lui qui a dit que c'est une situation qui est identique à celle qu'on a faite aux harkis, qu'on avait laissé tomber. Voilà.
Oui,
la Ligue des droits de l'homme, c'est clair, approuve cet avis. Et puis, je voudrais souligner, et ça c'est balancé comme ça dans les médias mainstream, Emmanuel Macron a dit dans son discours, on a accueilli toutes les personnes ayant travaillé pour consulat, ambassade, etc. Et il a dit... Il a avancé, je pense, je sais pas si vous vous en souvenez, le chiffre de 600 personnes.
Oui, ce qui n'est pas énorme.
Ici, le cynisme est absolu, parce que 600, c'est le nombre de personnes qui travaillaient sur l'année 2020-21 pour des organismes français.
Oui.
Mais tous ceux qui travaillaient dans les années précédentes, c'est des milliers. Et cela passe à la trappe. Cynisme absolu.
En plus, il a parlé des gens qui travaillaient dans les ambassades ou les consulats, mais il y a eu beaucoup de gens qui travaillaient en collaboration avec l'armée. Alors cela, on n'en parle pas du tout. Hein.
On peut être évacués tout de suite, ceux qui étaient...
près de l'aéroport.
Oui, c'est ça, qui étaient à l'aéroport.
Voilà.
Et on fait rire. Il semble qu'il n'y ait pas grand-chose de fait pour tous les autres.
Ouais. Et maintenant, il y a encore quelques avions qui décollent de Kaboul, mais c'est vraiment au compte-gouttes maintenant. Hein.
Ça crée aussi des discriminations immenses. Alors je me permets une petite parenthèse. C'est paru dans le Berry Républicain après un petit bras de fer pour que ce soit publié. La défenseure des droits, Madame Claire Hédon,
oui,
qui a remplacé Jacques Toubon et qui avait été d'ailleurs choisie par Emmanuel Macron lui-même, la défenseure des droits a sollicité au plan national la Ligue des droits de l'homme et a demandé à ce que toutes les sections locales de la Ligue, si elles en avaient les moyens, puissent ouvrir une boîte mail dans laquelle toutes les personnes qui seraient victimes ou se sentiraient victimes de discrimination, alors sexisme, racisme au pluriel, handicap, discrimination...
sanitaire.
Handicap, ça existe, discrimination à l'embauche, à l'apparence physique...
Pas sanitaire.
Voilà, à l'âge, au sexe, au travail, à la religion, j'arrête, que toutes les personnes puissent se signaler. Et donc, il y a évidemment une plateforme nationale avec un numéro de téléphone à 4 chiffres, 3928, je le cite. Et donc, la section de Bourges-et-Cher de la Ligue des droits de l'homme a ouvert une boîte mail Ou tous ceux qui ont besoin de poser une question ou de signaler une situation de discrimination le fassent. Donc, je vais l'épeler tout doucement. Cette boîte mail, l'adresse est droit, D-R-O-I-T, sans S, droit de l'homme, L-H-O-2-M-E, ligue, L-I-G-U-E, 18, @gmail.com. Donc, droit de l'homme ligue 18, tout se tient. Il n'y a pas de S à droit, hein. Droit de l'homme ligue 18, gmail.com. Voilà. Donc, l'information publique est passée à la fin du mois d'août. De cette adresse qui a été aussi communiquée au comité préfectoral qu'on appelle le CORA.
Oui.
Voilà.
Bon, et ben c'est bien. Et alors, il y en a une comme ça dans chaque département?
Dans tous les départements, dans la majorité des départements français, il y a une section ou des sections, plusieurs, dans les grandes villes, dans les grandes agglomérations de la Ligue. Mais il se peut, hein, je ne suis pas tout à fait au top là-dessus. Il y a peut-être des départements dans lesquels il n'y en a pas.
Ça a été ouvert quand, ça?
Ben ça a été ouvert dans le courant du printemps dernier. Et l'information publique a été faite au mois d'août.
Et la récolte est bonne?
Ben la récolte, non, il n'y a pas encore énormément de cas qui ont été signalés.
Signalés, ouais.
Parce que bon, il y a aussi une représentation de la défenseur des droits. Il y a aussi, bon voilà.
Oui, ça élargit la concurrence.
Voilà, ça élargit les possibilités,
voilà,
de connaître les cas de discrimination quand ils se produisent.
Très bien. L'Afghanistan, ça pose un problème qui est presque une insulte à la Déclaration universelle des droits de l'homme, c'est qu'il y a énormément d'endroits dans le monde où les droits de l'homme sont inconnus.
Absolument.
Eh oui.
Absolument.
Le taux de droits de l'homme dans le monde est peut-être inférieur encore au taux de vaccination pour la Covid.
Ah oui, malheureusement, on peut peut-être dire ça comme ça.
Oui. Et nous avons, vis-à-vis de ces pays, un rôle pédagogique, un petit peu. Et la pédagogie, ça va pas très bien avec l'idée de faire la guerre, quoi.
Non, c'est ça. Mais bon, le problème de l'Afghanistan, c'est aussi, ça démontre aussi la déroute occidentale. Enfin, je sais pas ce que veut dire occidentale, parce que la Terre est ronde, hein. Mais la déroute américaine et alliée, ça explique que l'on ne peut pas installer la démocratie. Et encore, quelle vision, oui, quel contenu, quel sens au mot démocratie donnent les dirigeants américains?
C'est, oui, bon, c'est... bon, ils sont quand même d'accord avec les droits de l'homme.
Je serais assez tenté de dire que dans ce qu'on appelle le monde occidental, il y a une tendance à confondre capitalisme avec démocratie. Oui. Alors, le capitalisme, on le voit, il crée d'énormes inégalités, et ces inégalités sont contraires, en fait, à l'évolution vers la démocratie.
Oui. Il y a un côté déclaration universelle, oui, des droits de l'homme blanc.
Oui, voilà. Ça, oui.
Dans
oui,
la pratique.
Dans la déclaration, pas de discrimination en fonction du lieu d'origine, des croyances, du sexe, de la couleur de peau, etc. Bon, c'est quand même universel. Mais ça montre que, contrairement à ce que les Américains avaient en tête, installer la démocratie, mais une démocratie à la mode américaine ou à la mode occidentale, ici ou là dans le monde, que ce soit en Afghanistan ou ailleurs, ça ne marche pas.
Et avant eux, les Russes avaient essayé d'installer une démocratie, disons, proche de l'URSS, et ça avait raté aussi.
En 1979, voilà, l'intervention soviétique... Ouais. Après de grandes hésitations,
10 ans,
avait été décidé pour porter secours à son appel, d'ailleurs, d'un gouvernement qui était un gouvernement de gauche, voilà, mais qui s'est vite trouvé, enfin je dis de gauche, ça va très vite en disant ça comme ça, mais qui s'est très vite trouvé, surtout dans les campagnes, opposé à tout ce que les religieux utilisaient pour dresser en fait des populations non instruites, contre ce régime qui se voulait plus progressiste, disons. Et... les Soviétiques avaient dit après aux Américains, vous verrez, si vous y allez, vous allez comme nous, vous y cassez les dents.
Exactement, oui, c'est vrai. Et on a dit que c'était l'Occident qui avait fabriqué les talibans, et en fait non, l'Occident les a plutôt simplement radicalisés, quoi. Voilà, les gens ne sont jamais aussi unis que lorsqu'ils ont un ennemi commun.
Oui, quand les Soviétiques étaient intervenus en Afghanistan... Et Zbigniew Brzezinski, qui a été conseiller du président Carter et puis ensuite de Clinton, Zbigniew Brzezinski, sur la question du financement et de l'armement des fondamentalistes religieux, avait dit au moins, pourquoi vous les aidez, lui avait-on posé comme question, il avait répondu au moins ils ne sont pas communistes.
Oui, c'est clair. C'est un petit peu ça, oui.
C'est clair.
Oui, non, mais c'est vrai que... Par exemple, chez nous, en 39, il y a eu beaucoup de gens qui préféraient Hitler au communisme, tout simplement. Hein.
En effet.
Ouais.
Bah, on arrive à la question de la démocratie.
Voilà.
Et de la faire vivre.
Alors, comme tous les 5 ans maintenant, élection présidentielle, on ne sait pas quand ça commence. Ça commence peut-être le lendemain de la précédente, hein, c'est pas impossible.
Absolument, je pense.
Oui, je crois aussi. Mais alors, en ce moment, c'est passionnant. Il y a un candidat nouveau tous les jours, pratiquement. C'est étonnant. Bon, enfin bref, le problème, c'est finalement le président de la République, quoi. Est-ce que cette tradition de la Ve République... est encore compatible avec la démocratie, avec une démocratie vivante.
Ben en tout cas, la question qu'on peut se poser, c'est les institutions de la Ve République n'arrivent-elles pas au bout ? On s'aperçoit, avec l'aide des grands médias mainstream, on s'aperçoit que cette perspective, cette échéance présidentielle, semble se réduire à des questions de personnes ou des questions de personnalité, et que notre avenir commun, les grandes questions de vie collective, elles passent derrière le show business des personnes, des candidatures. On voit bien dans les médias que un grand nombre de journalistes eux-mêmes, peut-être entraînés dans ce courant, en reviennent toujours aux personnes, partent des personnes et aboutissent aux personnes, et n'aboutissent jamais sur les questions de fond.
Je me demande si c'est pas un problème de la télévision.
Bah, il faut aussi un problème de la télévision.
Il faut toujours avoir quelque chose à montrer. Et les idées, ça ne se voit pas, ça se pense.
Oui, c'est la dictature du showbiz, c'est la dictature de l'audimat. Et puis aussi, il faut quand même le rappeler, le fait que les grands médias sont détenus en France par 7 milliardaires, qu'il n'y a pas une réelle indépendance des médias, que la déontologie médiatique est très difficile à respecter et que beaucoup de journalistes en souffrent. Et par conséquent, c'est une période, au fond, difficile qui s'ouvre. Et la Ligue des droits de l'homme, en fonction de ses moyens, considère que la seule chose qu'elle puisse faire, au-delà d'une rencontre, d'une conférence publique, d'une réunion publique, une participation à telle émission de radio, à telle invitation, etc. La seule chose qu'on peut essayer de faire, c'est d'aller à la rencontre des citoyens pour essayer d'engager, même très simplement, une discussion posant quelques questions. Et nous, on va d'ici l'échéance présidentielle, en se gardant bien d'être, en veillant absolument à ne pas être instrumentalisé ou récupérée par telle ou telle formation politique, mais ne pas servir non plus de marchepied à telle ou telle formation politique, on va réfléchir à la mise en place de fiches que nous irons distribuer dans la population, sur un marché, dans une rencontre publique, éventuellement au porte-à-porte, etc., etc.
C'était devenu difficile, ça, ces derniers temps.
C'est devenu très difficile.
Mais maintenant, ça va peut-être aller mieux.
Mais rencontrer la population en expliquant que nous ne sommes pas un parti politique, que nous posons des questions politiques au sens originel du mot, je dirais au sens grec du mot. Comment s'organiser collectivement pour vivre de façon harmonieuse ou la plus harmonieuse possible. Donc on posera, je dirais, on a en perspective la mise en place de 4 fiches qui pourront d'ailleurs être, dans certains cas, rassemblées sous la forme d'une petite brochure. Comment rendre la démocratie vivante, pour une démocratie vivante, et aussi pour la démocratie au sens économique et social, mais on va pas pouvoir tout dire aujourd'hui.
On a le temps de reprendre ça.
Pour engager résolument la transition écologique et aussi pour une démocratie élargie en politique extérieure européenne et migratoire. On va même parler de l'Afghanistan.
Oui, oui.
Donc parce que la période qui s'ouvre, bon, c'est quand même celle d'une échéance importante pour notre avenir commun, en sens qu'il va falloir, il faudra quand même faire face aux inégalités qui ont grandi, aux défaillances démocratiques du pouvoir actuel. On parlait de la gestion autoritaire. Bon, les dangereuses fausses solutions du Rassemblement national. Et on pourrait ajouter autre droite radicale. Et donc, on va essayer de proposer quelques moyens de réflexion. Voilà. En laissant chacun, évidemment, libre de se faire sa propre opinion.
Oui, bien sûr. Le problème, c'est que, au fond, vous êtes les défenseurs du préambule de la Constitution et vous êtes un peu critique avec l'institution de la présidentielle.
Alors, je dirais que ce que nous défendons, c'est tous les principes qui sont inscrits dans ce qu'on appelle en France le bloc constitutionnel.
Voilà.
Alors, je rappelle, ce bloc constitutionnel, il regroupe différents textes qui, malheureusement, à notre avis, sont pas
suffisamment connus,
respectés ni
et
appliqués.
Pas assez connus.
C'est la Constitution. C'est la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. C'est celle, la Déclaration universelle des droits de 1948, et le préambule de la Constitution de 1946, qui, tout ensemble, tous ces textes, voilà, forment le paquet ou le bloc constitutionnel.
Et c'est là-dedans qu'on voudrait rajouter des obligations écologiques, par exemple.
Alors,
il était question de l'inscrire dans le préambule.
Ou pas rajouter, que ce soit sur le plan écologique, économique, social ou autre, nous ne disons pas que ces textes sont absolument infaillibles. Nous ne disons pas que la Constitution de 1958 doit être absolument conservée en l'état. D'ailleurs, elle a souvent été amendée.
Oui.
Nous ne disons pas que la législation en vigueur aujourd'hui est parfaite. La Ligue des droits de l'homme critique, a souvent une analyse critique des textes de loi, y compris de la Constitution. Mais ce que nous disons, c'est que le droit doit être respecté, mais le droit doit pouvoir être critiqué.
Bien sûr.
Et les grands principes constitutionnels devraient régler la vie collective en France. Malheureusement, ils sont très loin d'être appliqués.
Vous jouez le rôle du Conseil constitutionnel, d'une certaine façon.
Ce n'est pas le rôle du Conseil constitutionnel, mais c'est le rôle comment on pourrait dire ?
C'est le même souci.
La Ligue se considère comme une association politique, je répète, au sens noble du mot, hein, au sens grec du mot, organiser la vie collective, s'organiser, mais s'organiser, l'organisation partant des citoyens, l'organisation démocratique. C'est une vigie, voilà, c'est une vigie sur l'état des droits et des libertés. En ce qui concerne la question de, justement, rendre la démocratie vivante, il y a dans ce pays des outils. Ces outils ne sont pas toujours mis en valeur. Ces outils ne sont pas toujours respectés. Par exemple, nous considérons, puisqu'on aura l'occasion, je pense, dans d'autres émissions, de revenir sur d'autres domaines économiques, sociaux, écologiques, internationaux, etc. Mais sur le fonctionnement de la démocratie, nous considérons, dans la perspective électorale, qu'un nouveau mode de scrutin est absolument nécessaire afin que toutes les conceptions politiques ainsi que la réalité sociale et professionnelle du pays soit effectivement représentée. En clair, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que lorsqu'un mode de scrutin, un code électoral, est trop éloigné de la proportionnelle, on aboutit à une destruction de la représentation. On dit aujourd'hui, mais c'est scandaleux, 50% des citoyens s'abstiennent ou ne votent pas. Ce fut pire encore au moment des régionales. On peut poser la question comme ça, mais on peut poser la question d'une autre manière. Mais pourquoi y a-t-il tant de personnes qui ne votent pas ? N'est-ce pas parce qu'ils se disent « Mais pourquoi irais-je voter, moi qui suis ouvrier et employé, compte tenu du fait que le mode de scrutin fait qu'à l'Assemblée nationale, par exemple, il n'y a pas un ouvrier et pas un employé ? Pourquoi irais-je voter puisque le col électoral fait, c'est le cas d'Emmanuel Macron, qu'avec 18% des inscrits, j'ai une Assemblée nationale qui représente le pays tout entier ? Que moi, président de la République, avec 23% des inscrits, je décide de tout. Pourquoi j'irai voter, pensent les gens. Et c'est ça qu'il faut changer. Et ça passe par un changement du code électoral. Et puis nous pensons aussi que l'article 15 de la Déclaration de 1789, et on vient de dire que ça fait partie de notre bloc constitutionnel, bien, il faudrait arriver à créer par la loi les conditions de son application qui aujourd'hui n'existe pas. Et qu'est-ce qu'il dit, cet article 15 ? La société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration. Ça veut dire que les élus doivent rendre compte de leurs décisions et votes, et les citoyens doivent pouvoir intervenir au cours de leur mandat et disposer d'une possibilité de révocation qu'il resterait, évidemment, fixé par des modalités légales. La loi devrait déterminer ça. Ça pose la question du cumul des mandats. Ça pose la question du nombre des mandats. La Ligue pense qu'ils doivent être limités pour interdire quelque chose qui est un véritable poison, la professionnalisation de la vie politique. On entend dire de façon familière le métier politique, leur job. Non! C'est un mandat, c'est pas une profession. Et les politiques, les accros du pouvoir, finissent par croire et faire croire et propager l'idée que c'est un métier. Eh bien, la Ligue dit non.
Eh bien, c'est sur cette forte parole que s'achève cette émission. Merci Michel Picard. Au mois prochain.
À bientôt, au mois prochain.